la nuit. Chantal Valli, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute, formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il propose différents parcours adaptés aux situations de chacun au sein de l'Institut de formation psychrétien, et cette aide thérapeutique permet une réconciliation avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres, dans la perspective d'être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans notre vie. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir aux auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage, humilité et orgueil, quelle place en psychothérapie ? Nous allons en parler ce soir. Alors Pascal Parinet, en psychothérapie, qu'en est-il ?
Voilà, ce qu'on peut dire déjà, ce sont, en tout cas pour l'orgueil, un mot qu'on n'utilise pas.
Bon, donc déjà ça commence bien.
Voilà, bon. Et ça ne fait pas partie de notre vocabulaire.
C'est ça.
Même si parfois, alors par contre, les patients, ils peuvent en parler.
Hein. Les patients en parlent, ah oui. Donc,
les patients en parlent, mais pour nous, ça, voilà. Et vous, en tant que thérapeute...
Donc il va falloir traduire, sûrement, il va falloir traduire, voilà. On va voir ça, oui.
Et on en parle pas parce que d'abord, l'orgueil, ça a une connotation morale.
Oui.
Et en psychothérapie, on ne fait pas de morale.
Alors expliquez-nous, on n'est pas immoral quand même.
Non, on n'est pas immoral,
on est
mais on n'a pas à dire à la personne, c'est bien, c'est mal,
sauf
quelques cas exceptionnels où on peut rappeler la loi.
Ah oui, c'est voilà. Ça, on rappelle la loi à ce moment-là.
Mais,
si on la transgresse
voilà.
Ou si...
Oui. Mais quand on parle d'orgueil, on est déjà dans l'ordre du jugement, et en psychothérapie, il n'y a pas de jugement.
Mm-hmm.
Donc on ne juge pas la personne, donc
voilà.
On ne se permettrait jamais de dire c'est de l'orgueil ou
oui,
quoi que
oui,
ce
oui,
soit d'autre.
Voilà. Alors, bon, on va voir, hein, ce sont des mots quand même... Que les patients, eux, utilisent.
Voilà, et qui font partie de la culture environnement, de l'environnement. Donc, ce sont des mots courants. Et puis, souvent, les patients l'utilisent par rapport à eux-mêmes. Ils disent, je sais que c'est orgueilleux, ou je sais que...
Ah oui.
Voilà, ou par rapport aux autres, c'est de l'orgueil mal placé. Alors... Ce qui suppose qu'il peut y avoir de l'orgueil bien placé, d'ailleurs.
Ben oui, c'est ça. Bon. On va voir. Hein. Alors, les patients l'utilisent.
Oui. Pas tous, mais certains patients l'utilisent. On parle beaucoup plus d'orgueil que d'humilité, d'ailleurs.
Chez les patients.
Voilà, d'orgueil. Alors, ils vont parler du leur, ils vont parler de ceux, de leurs proches, de leurs collègues. Voilà.
Oui. Mais l'humilité, moins.
L'humilité, moins. Et puis, souvent, l'orgueil est associé avec la vanité, qui est une expression, finalement, de l'orgueil.
Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut... Donner,
oui.
Par exemple, un exemple, ou je sais pas.
On pourrait citer Saint Jean Climac qui disait « Quand je porte un beau vêtement, je suis vaincu par la vanité. Quand j'en mets de pauvres, j'en tire encore de la vanité. Quand je parle, je suis vaincu par elle. Quand je garde le silence, elle me domine. »
Ça fait penser aussi à l'Ecclésiaste de vanité,
voilà.
Vanité, tout est vanité.
Exactement, oui.
Bon.
Ça, ce qui dit bien que c'est difficile d'y échapper, finalement.
Oui, oui,
hein,
oui.
Ça fait partie de l'humanité.
Mmh.
C'est quelque chose qui est très présent en nous. Et alors, on verra, c'est en lien avec le narcissisme. Alors, il y a un bon narcissisme, il y a un narcissisme qui nous dessert.
Alors ça, par contre, le narcissisme, c'est moins utilisé si on utilise orgueil-vanité dans le vocabulaire, disons, chrétien ou spirituel, on utilise moins le mot narcissisme.
Oui, ça rentre dans le langage courant.
Oui, c'est ça, voilà. Oui.
Pas toujours à bon escient, mais on entend beaucoup dire « Ah, il est narcissique » ou « Ah, c'est un pervers narcissique ». Ça, c'est quelque chose avec les articles qui paraissent régulièrement. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup maintenant.
C'est à la mode.
C'est à la mode, oui.
Bon, alors, donc, Jean de Climac, voilà, rappelait que vraiment, on y échappe difficilement.
Voilà, par contre, les patients parlent peu d'humilité, mais ils parlent de modestie. Alors, ou les patients, ou d'ailleurs dans le langage courant, les gens vont dire « il est modeste », mais ils ne vont pas rarement dire « il est humble ».
Oui, c'est vrai.
Un peu comme si c'était un terme plus spécifique à la religion, ou en tout cas à la foi, où là on parle vraiment d'humilité. Et peut-être moins de modestie.
Voilà. Alors, comment, dans le cadre alors de spirituel, l'orgueil, bien sûr, dans ce cadre-là, on en parle. Ouais.
Alors, elle est souvent citée, elle est même citée comme la première des passions. Oui. Il y a un certain nombre de passions.
On en passions de l'âme, peu. Oui.
Et comme la source de tous les maux et des péchés aussi de l'humanité. Alors, l'humilité, elle, c'est la vertu la plus recherchée, mais aussi peut-être la plus rare. Et pour les pères de l'Église, c'était la seule vertu qui semble pouvoir venir à bout de l'orgueil et de la vanité. Hein? Donc, comme quoi, c'est vraiment une vertu importante.
Oui. Alors, on va voir qu'est-ce que l'orgueil exactement. Selon les sources différentes, on doit trouver des définitions différentes, je pense.
Moi, j'ai repris Wikipédia. C'est...
Bon, pour ce qui est courant, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on dit de l'orgueil alors dans Wikipédia
Alors, l'orgueil, c'est le mépris de tout, sauf de soi-même. Alors c'est superbia en latin, donc superbia ça dit superbe, bien.
Oui.
En gros c'est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle au dépend de la considération due à autrui. À la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser, c'est un manque ou une absence d'humilité. Non, ce qui est important, c'est qu'on voit que dans l'orgueil, il y a aussi cet aspect de par rapport à autrui, de se comparer à l'autre, de rabaisser l'autre, qui n'est pas le cas dans la fierté.
Oui, c'est différent.
Voilà.
Alors, on va voir.
Et dans la religion chrétienne, il désigne un péché capital, celui qui donne le sentiment d'être plus important, plus méritant que les autres, de ne rien devoir à personne et qui se traduit par un mépris pour les autres et le reste de la création et un rejet de la révélation et de la miséricorde divine.
Le tableau est complet. Là.
Voilà.
C'est dans Wikipédia quand même, il donne
une définition qui couvre un peu l'ensemble des domaines.
Oui.
Voilà, et qui est assez clair finalement.
Oui, oui. Et ça continue ou...
Voilà. Oui, alors, à l'inverse, ça peut être perçu différemment dans d'autres cultures.
L'orgueil.
Oui.
Ah oui.
Et même comme une vertu ou comme un idéal. Et par exemple, dans le cas du Bushido, donc qui organisait un peu la morale japonaise féodale.
Oui.
On dit l'orgueil qui doit être sorti de son fourreau comme une bonne lame pour qu'elle ne rouille pas.
Ah oui.
Donc voilà, il y a aussi des aspects peut-être positifs dans l'orgueil. Alors dans le sens aussi où ça amène la personne, peut-être à combattre l'injustice
ou à se dépasser quelque part.
À se dépasser aussi.
Oui. Hein? Oui, c'est ça. Je pense à Saint Paul qui parle de l'orgueil. Je mets mon orgueil, dit-il.
Voilà.
Hein, dans la croix du Christ.
Oui. Ouais, du coup, c'est un bon orgueil.
Un bon orgueil.
En tout cas, un orgueil qui donne de la motivation, qui amène à aller de l'avant.
Voilà, oui. Donc là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui est d'une ordre d'un dépassement.
Oui, voilà.
Pour combattre l'injustice, par exemple.
Voilà, mais c'est pas dans le langage courant, c'est, en général, c'est pas trop comme ça.
C'est pas comme ça, non. Alors, il y a encore d'autres, dans d'autres situations.
Oui, alors il y a la période romantique qui avait une certaine fascination... pour l'orgueil et la révolte qu'il peut entraîner. Voilà, mais en gros, c'est surtout dans la culture japonaise où il était valorisé. Tout le code des samouraïs, finalement.
Mais oui, c'est ça, bien sûr.
Des combattants.
Il y
avait un code d'honneur.
C'est ça.
Qui rejoignait un certain orgueil. Alors, l'orgueil... Peut-être là, l'orgueil était plus équivalent à honneur.
Oui, mais comme quoi,
ouais.
Hein, les variantes, on peut glisser facilement. Là, en tout cas, il y a une connotation positive et c'est sûrement pas l'orgueil.
C'est pas l'orgueil tel qu'on l'utilise, nous, à notre époque, pour dire que la personne se surestime et qu'elle dévalorise les autres.
Oui, oui. On peut dire quand... Saint Paul parle « J'ai mis mon orgueil, je mets mon honneur » dans la croix du Christ.
Voilà.
Hein, c'est un peu dans ce sens. Ouais. Oui. Alors donc,
Qui rejoint d'ailleurs les bons aspects du narcissisme et les mauvais aspects du narcissisme.
Voilà, donc là, on va voir. Hein, puisque en psychothérapie, on parle plutôt de narcissisme, pas d'orgueil, mais on voit qu'il y a là quelque chose. Alors ça, c'était la définition de Wikipédia, qui est donc pour, on peut dire, laïque. En balayant aussi des sphères religieuses. Voilà, mais il n'y a pas... Voilà. Et au niveau spirituel proprement dit,
il suffit d'aller sur le site de la Conférence des évêques de France.
Et vous donnez une bonne référence. Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Qui nous disent que d'abord c'est un des 7 péchés capitaux. Donc il y a l'orgueil, l'envie, la colère, l'intempérance, la paresse, la luxure, l'avarice.
Oui.
Et que l'orgueil est le refus fondamental de reconnaître ses limites et en particulier de reconnaître ce qu'on doit à Dieu et aux autres. Et les pères de l'Église voient dans l'orgueil l'origine de tout péché, aussi bien du genre humain, donc le péché originel, que de chaque pécheur. Il est à la racine de tout mal. Reconnaître que nous devons absolument tout de Dieu, qui nous a tout donné et qui nous donne sans cesse gratuitement, est le fondement de lutte de l'humilité, et Saint Paul le rappelait aux Corinthiens. Voilà ce que disent
nos évêques. Hein, ça, c'est la référence de l'Église par la bouche de nos évêques.
Voilà, donc c'est quelque chose d'important, puisque c'est la source du péché original. Finalement, c'est par orgueil, pour vouloir être comme Dieu, qu'Adam et Ève
ont transgressé
la loi qui leur avait été posée. Ça, c'est au niveau de l'humanité. Et individuellement, l'orgueil souvent amène à pécher.
Voilà. Donc, nous allons poursuivre dans quelques instants cette réflexion au sujet de l'orgueil et de la vanité vue sur le plan de la psychothérapie et sur le plan spirituel, puisque les termes ne sont pas utilisés en psychothérapie, mais il y a des... On va voir comment...
Il y a des correspondances.
Merci Pascal Parinet, un petit suspense, le temps d'écouter Axel Bauer qui chante Souviens-toi.
Radio Notre-Dame.
Faudra-t-il faire de longues prières, chanter des oraisons, faudra-t-il taire mes vaines colères pour dire ton nom? Croiser le fer, harasser mes nerfs pour baiser ton front. Souviens-toi, mes bras t'ont serré. Guette-les, ces bras sans alliés.
Axel Bauer, souviens-toi. Alors, il vaut mieux se souvenir quand on, quand on essaie de travailler sur soi pour... on va voir en psychothérapie comment on travaille cette malorgueil, peut-être, j'en sais rien. Alors, donc on avait la définition là d'une part de Wikipédia, et puis d'autre part de la conférence des évêques
de France. Des évêques de France, oui.
Alors, donc, on disait...
Oui, on disait qu'avec la vanité, l'orgueil est cité comme la première passion et comme celle qui a la source et à l'origine de toutes les autres passions et des péchés.
Oui.
Et quand on regarde les passions les plus grossières, ou les plus faciles à vaincre ou plus difficiles, l'orgueil, finalement, se trouve au sommet.
Ce qui est le plus difficile à vaincre.
Voilà,
oui.
Donc de ce qui est le plus difficile à vaincre avec la vanité. Et aussi comme la résultante de la vanité. On voit que l'orgueil, la vanité sont très en lien.
Oui.
L'orgueil, finalement, c'est le résultat de la vanité, mais on pourrait dire que ça fonctionne un peu d'une façon circulaire.
Mmh.
C'est quand on est orgueilleux, ben, on va se vanter, et de se vanter, ça augmente l'orgueil, et ainsi de suite.
Bon. Alors, l'orgueil, est-ce qu'il y a plusieurs formes d'orgueil ou est-ce qu'il y a qu'une forme, enfin?
Alors, oui, il y a deux formes. La première forme, ça consiste à se croire supérieur aux autres, ou du moins à tel ou tel autre. C'est pas toujours à tout le monde.
À l'humanité toute entière. Moi, de se prendre pour Napoléon.
Faut l'espérer. mais au moins à quelques personnes.
Oui.
À rechercher cette supériorité quand on pense ne pas l'avoir, donc à tout le temps essayer d'être supérieur aux autres finalement, ou supérieur à l'entourage. Et donc dans tous les cas, l'orgueil ça consiste à s'élever, mais alors pas à s'élever par le travail, par les efforts,
oui.
À s'élever narcissiquement dans son image finalement.
Ah oui.
Et à s'admirer soi-même. Et pour ça, l'orgueilleux va rabaisser l'autre, parfois le mépriser ou aller jusqu'à l'ignorer.
Oui, le nier, enfin.
Oui, le nier, enfin le rabaisser,
oui.
De façon à se sentir supérieur à l'autre.
C'est un peu facile, hein, comme.
Alors, c'est facile, c'est très désagréable pour les autres,
ben
aussi.
Oui.
Hein. Et puis, finalement, ça n'atteint pas son objectif, parce que...
Non, c'est sûr que...
C'est vraiment...
Ça ne donne l'illusion qu'à celui qui...
Qui y croit. Mais finalement, les autres, très vite,
Se repère,
s'en rendent compte et s'éloignent.
Ben oui. Alors, donc ça, c'est la première forme d'orgueil. Il y a une autre forme, alors.
Alors, il y a une autre forme qui se situe par rapport à Dieu.
Mais oui, bien sûr.
Et les pères de l'Église rappellent que c'est elle qui a provoqué la chute de l'homme, où finalement il s'agit de revendiquer une autonomie absolue, de prétendre tirer tout de soi-même,
oui.
De rechercher sa propre gloire et d'affirmer sa supériorité en tout, en niant Dieu, finalement.
Ah oui.
Ce qui fait que l'orgueil se présente comme un refus de Dieu et fait croire que l'on est soi-même la source de ses vertus et la cause de ses bonnes œuvres. Voilà.
Oui,
donc
oui,
là,
oui.
C'est vraiment l'orgueil qui coupe de Dieu.
De Dieu complètement. Mais ça, c'est notre société quand même actuelle qui est très versée
là-dedans.
En Occident, en tout cas.
Oui, en tout cas pour l'Occident, parce que c'est pas général dans le monde.
Heureusement.
Mais pour l'Occident, on est un peu dans cette forme, dans les deux formes d'ailleurs.
Oui,
hein.
Oui.
Mais sans doute que les deux formes vont un peu ensemble. À partir du moment où on se considère comme la source de tout bien.
Ah, oui.
Après tout, on finit par mépriser les autres et ainsi de suite.
Oui, et puis Dieu, on n'en a pas besoin dans ce cas-là, puisqu'on est la source. Ah, c'est ça.
C'est ça.
On ne reconnaît pas le.
On reconnaît pas qu'on est
notre juste place
dans l'univers.
Oui.
Et que finalement, on ne s'auto-crée pas.
Ben non.
On est une créature et...
Et pourtant, aujourd'hui, notre société, c'est ça, c'est l'homme qui s'auto-crée. Hein.
Oui, en tout cas, il y a...
On glisse vers ça beaucoup.
On glisse vers ça. Peut-être qu'il y a une illusion avec les sciences, avec les nouvelles technologies, avec les perspectives aussi, qu'elles soient peut-être dans le domaine de la génétique, dans le domaine médical, enfin... L'homme peut finir par croire qu'il est maître de lui-même, de la nature, de la vie. De...
C'est un peu cette image-là qu'on a aujourd'hui, ouais. Et malheureusement. Mais bon, alors le seul remède possible, ou le remède possible, le seul sans doute...
C'est l'humilité. Il n'y a pas d'autre remède à l'orgueil que l'humilité.
Voilà, donc... C'est simple, si on peut dire. C'est simple comme remède, mais encore faut-il parvenir à le vivre.
Oui.
Alors, au niveau psychologique, qu'en est-il ? Puisque ce n'est pas une notion, vous disiez, enfin, on ne parle pas de...
On ne parle pas d'orgueil, ce n'est pas un concept qui est utilisé en psychothérapie.
Mais on parle de narcissisme, vous êtes...
Voilà, on parle de narcissisme, on parle d'amour de soi, on parle d'estime de soi, ouais. Mais pas d'orgueil.
Alors, parmi ces notions, à quoi l'orgueil correspondrait-il ?
Alors, on pourrait dire le plus souvent, ça va être une compensation... face à un narcissisme défaillant.
C'est-à-dire
qu'il y a des fragilités ou narcissiques, des blessures narcissiques, et la personne, pour s'en protéger en quelque sorte, oui. va compenser ça par de l'orgueil.
C'est-à-dire en
se valorisant.
Oui.
Et du coup... on pourra dire que c'est un mécanisme de défense pour lutter contre une mauvaise image de soi et une faible estime de soi.
D'accord, ça serait donc un mécanisme de défense, là.
Voilà, dans ce cas-là, oui. L'individu est pris, en quelque sorte, entre un idéal de perfection, qui n'est pas toujours conscient, cet idéal. Souvent, il est inconscient. Oui. Donc, l'individu a l'impression qu'il doit être parfait. Et en même temps, il a, à cause de cet idéal de perfection, comme il ne peut pas l'atteindre, une mauvaise image de lui-même, qu'il va tenter de compenser, finalement en déniant, en déniant ses limites ou ses erreurs. Voilà. Et du coup, en se survalorisant, en s'idéalisant lui-même.
Alors, ce qui est en jeu là, vous dites, c'est un narcissisme
défaillant. Voilà. Défaillant, que la personne va chercher à compenser dans l'orgueil pour ne pas en souffrir.
On a l'impression que
une image survalorisée.
Mm-hmm. Alors... ça va passer donc par une image survalorisée.
Voilà, par une image survalorisée et aussi par le refus de tout ce qui pourrait remettre en cause l'image de soi. C'est-à-dire de pas accepter la critique, par exemple, de pas reconnaître ses erreurs, de pas reconnaître qu'on est vulnérable, qu'on, finalement. Reconnaître qu'on est vraiment humain.
Ben oui, c'est ça, oui. Partir de la condition humaine avec tout ce qu'elle...
Voilà, avec la possibilité de se tromper, de faire des erreurs.
Les limites, les faiblesses,
De ressentir des émotions, d'être triste.
C'est fait partie...
Tout ce qui fait notre humanité et qu'on est amené à vivre en fonction des événements.
Alors, donc, il y a deux cas, on disait tout à l'heure, deux façons
de... Voilà, le premier cas qui est une défense ou une compensation par rapport à une image défaillante.
Oui, et le deuxième,
alors le deuxième, il est quand même, en tout cas, on le rencontre beaucoup plus rarement, c'est un amour excessif de soi.
Un amour excessif de soi, Ça arrive.
Un amour excessif. Moi, vraiment, rencontrer...
Dites-nous, qui rencontrez quand même pas mal de personnes, oui.
Une personne qui a vraiment cet amour excessif de soi, mais d'une façon exacerbée, on pourrait dire.
Exacerbée, oui.
J'en ai rencontré une en 20 ans.
Ah oui, quand même. Oui, c'est quand même assez rare.
C'est quand même assez oui. rare. Après, il y a un peu de survalorisation, un peu d'excès. Mais quand c'est vraiment à l'extrême, c'est très,
très rare. Mais alors, à l'extrême, ça veut dire quoi, l'extrême, dans ces cas-là? Bon, là, si vous ne dévoilez pas un secret, mais comment ça se présente?
Ça veut dire que la personne s'admire, se considère extraordinaire, exceptionnelle, que tout le monde ne peut que l'aimer.
Mais est-ce que c'est pas un mécanisme de défense à l'excès, ça, non?
Alors non, on est vraiment, on n'est pas. Alors, il y a
quelque chose.
Voilà, mais en c'est même autre temps, chose. C'est vraiment dans un amour narcissique là.
Autant, de soi, pas vraiment.
Voilà, autant l'autre, la personne va laisser entrevoir une image dévalorisée contre laquelle elle lutte.
Oui.
Autant là, la personne est vraiment convaincue.
Sûre d'elle-même, alors très sûre d'elle-même.
Voilà, et complètement convaincue qu'elle est extraordinaire. Hein. Mais c'est quand même très très rare.
Mais ça doit être. Ça doit être difficile en psychothérapie. Il n'y a rien à faire. Vous devez buter contre un mur, vous, en tant que psy, par rapport. Parce que pourquoi la personne vient-elle? Elle a quand même une difficulté si elle vient vous voir.
Alors, en fait, cette personne, elle n'était pas venue pour elle. Elle était venue
pour
rendre service à quelqu'un d'autre, en gros. En général, ces personnes, ils viennent pas en psychothérapie, puisque tout va très bien. Et si quelque chose va mal, c'est pas eux, c'est les autres. Donc, c'est très rare de voir ce genre de personnes en psychothérapie. Et c'est vrai que c'est difficile. En tout cas, ça demande du temps. Pour qu'elles puissent réaliser que peut-être elles sont pas aussi parfaites que ça.
Ben oui.
Hein? Et ça demande du temps. C'est vraiment.
Oui, oui, oui. C'est ça, peut-être voilà. les événements aussi de la vie.
Ce qui arrive, c'est que finalement, les événements de la vie font que la personne, mais à ce moment-là, elle arrive souvent en dépression. C'est-à-dire que tout s'est effondré et puis elle découvre que l'idéal qu'elle s'était forgé d'elle-même, finalement, il n'existe pas. Donc,
là, il y a un effondrement parce que devant la réalité.
Voilà, là, il y a un effondrement. Là, elles peuvent venir en thérapie, mais avant ça. C'est extrêmement rare que ces personnes viennent en thérapie parce qu'elles pensent que tout va bien et que si ça ne va pas, c'est pas elles, c'est les autres. Mais encore une fois, c'est quand même extrêmement rare par rapport au premier cas d'un orgueil qui serait défensif par rapport à un narcissisme défaillant.
Donc voilà, c'est quand même rare. Alors ce qu'on appelle... L'orgueil, c'est donc, on le redit, une problématique narcissique en psychothérapie.
Voilà, et qui peut jouer alors sur les deux versants, soit sur un versant comme une défense, voilà, et plus rarement comme un amour exagéré, voire disproportionné de soi.
Vous avez pensé aux deux cités aussi de saint Augustin, s'aimer jusque au mépris de Dieu. Et où se mépriser, jusqu'à l'amour de Dieu. Enfin, il y a ces deux versants dans les.
Oui, on retrouve finalement les mêmes choses avec une lecture spirituelle ou une lecture psychologique.
Il y a là quelque chose.
Ce qui fait que dans un cas, ça est plutôt un manque d'amour de soi.
Oui.
Que la personne va tenter de dénier ou en tout cas d'éviter d'en ressentir la souffrance parce que c'est pas agréable de ne pas s'aimer. Et puis dans l'autre cas, c'est plutôt le contraire, c'est un excès d'amour que la personne va étaler au grand jour à travers la vanité, en quelque sorte.
Un excès d'amour de soi.
Oui.
Alors, donc, voilà, les deux cas, le deuxième étant plus rare. Oui.
Encore une fois, c'est beaucoup plus rare.
Voilà, donc, nous invitons nos auditeurs aussi à nous rejoindre au 01 56 56 44 00 pour entrer dans le dialogue avec donc Pascal Parinet. Le thème ce soir, humilité et orgueil en psychothérapie. Nous écoutons, c'est Axel Red qui chante « Changer ma vie ». Mais peut-être que justement, quand on vient vous voir, c'est qu'on veut vraiment changer sa vie.
Et qu'il faut un peu d'humilité pour ça.
Radio Notre-Dame.
Si demain je pouvais changer ma vie, je ne crois pas que j'en aurais tellement envie. Tout bousculer pour ne pas y trouver qui tu es, ton visage, ta beauté. Je changerai d'endroit, mais si tu n'y es pas, jamais je ne me le pardonnerai. Il y a un tas de choses que je changerai. Oh, le monde est loin d'être parfait, mais si déjà nous sommes bien, je ne regrette rien, ni mes failles, ni mes efforts en vain. Si demain je pouvais changer ma vie, je ne crois pas que j'en serais tellement ravie. Tout bousiller et ne plus rencontrer ce charme qui m'est si familier. Aucun paysage ne vaudrait ton visage, je chercherai partout ta beauté. On croit toujours qu'on va trouver mieux en changeant un petit peu. Papa, paradis, mais c'est pas taradis. Entre nous, il y a ce brin de folie. Si demain je pouvais changer ma vie, je ne crois pas que j'en aurais tellement envie. Tout bousculer pour ne pas y trouver qui tu es, ton visage, ta beauté. Je changerai d'endroit, mais si tu n'y es pas, jamais je ne me pardonnerai. Tout bousiller et ne plus rencontrer ce charme qui m'est si familier. Aucun paysage ne vaudrait ton visage, je chercherai en tout ta beauté. Ta-da-da-di-da.
C'était Axel Red, Changer ma vie. Donc elle reconnaît aussi ses failles. Hein.
Ses failles, elle dit que finalement, peut-être qu'elle n'aurait pas tant envie que ça de changer. Oui. Alors, on peut l'entendre aussi dans un sens d'acceptation de sa vie ou de ce qu'a été sa vie, ce qui est aussi positif. Oui. Changer, ça ne veut pas dire tout chambouler non plus. Hein. C'est souvent, le changement, il passe par l'acceptation de ce qu'on est, de ce qu'est notre vie. Mais en même temps, accepter, ça permet de changer beaucoup de choses, parfois.
Donc, c'est à méditer. Hein. Alors, voyons maintenant, qu'est-ce que l'humilité, puisqu'on a parlé de l'orgueil beaucoup. Qu'est-ce que l'humilité est, que dit Wikipédia, si on reprend le même schéma tout à l'heure?
Voilà, alors l'humilité, ça vient de d'humus, qui signifie la terre. Donc c'est considéré souvent comme un trait de caractère d'une personne qui se voit d'une façon réaliste. Et donc ça s'oppose aux visions déformées que la personne peut avoir d'elle-même. L'humilité n'est pas en général une qualité humaine innée, mais c'est plutôt considéré, en tout cas, comme quelque chose qui s'acquiert dans le temps, avec le vécu, et qu'elle va de pair souvent avec une maturité, soit affective, soit spirituelle.
Il y a une maturité, là.
Voilà. Oui. Il faut sans doute oui, une certaine expérience.
De la vie, pour pouvoir
avoir un minimum d'humilité. Et l'humilité n'est pas forcément liée à la manière dont un individu se montre aux autres. Ça, c'est de la modestie, et la modestie n'est pas tout à fait une forme d'humilité, mais c'est plutôt une démonstration d'humilité, mais qu'une personne non humble peut réaliser. Voilà, on peut jouer en quelque sorte la modestie, mais pas l'humilité.
Alors, oui.
Donc la modestie, c'est une manifestation, mais
c'est une forme, mais
voilà, oui. mais c'est pas toujours la vraie signe de l'humilité. De la même façon, la fierté n'est pas incompatible avec l'humilité. Un individu peut être fier de lui pour ce qu'il a réalisé, peut-être justement parce qu'il possède assez d'humilité pour prendre conscience qu'il a fait beaucoup par rapport à ce qu'il est. Donc on voit l'humilité.
Un dépassement de lui-même.
Voilà. L'humilité, ça s'inscrit vraiment dans une juste vision de soi. On peut être fier parce qu'on s'est dépassé. Et c'est juste d'être fier quand on se dépasse. Voilà, et en même temps, c'est pas forcément les plus modestes qui sont les plus humbles. Donc l'humilité, c'est vraiment la juste vision de soi, ni survalorisée, ni dévalorisée. Voilà, et à l'opposé, quand un individu manque d'humilité, il peut se dévaloriser. Donc la dévalorisation de soi, c'est d'une certaine façon un manque d'humilité en surestimant ses propres capacités et donc en considérant ce qu'on fait comme médiocre. Voilà, donc se dévaloriser, c'est pas un signe d'humilité. La modestie, ça peut l'être, mais pas toujours. La fierté s'oppose pas à l'humilité.
Vous voyez, c'est très subtil et complexe. Hein.
Ouais. Par contre, c'est vraiment une juste vision réaliste
de ce qu'on fait,
de ce qu'on est.
Alors, ce juste milieu, c'est l'homme qui se réalise, qui peut parvenir à ça, on peut dire. Hein.
Voilà, il faut
qui réaliser.
C'est pour ça que ça nécessite une maturité à la fois affective et spirituelle, parce qu'il faut de l'expérience de la vie pour se connaître suffisamment, pour connaître ses limites, connaître aussi ses capacités et pouvoir les estimer d'une façon juste.
Voilà. Alors ça, c'était ce que disait Wikipédia sur l'humilité. Et au niveau spirituel, alors ?
Voilà, alors on reste avec la conférence des évêques de France.
Voilà, c'est une
alors,
bonne référence.
L'humilité est le terrain sur lequel les autres vertus prospèrent. Elle est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, des autres et de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil, à la suffisance et à l'arrogance. En nous appuyant sur la grâce de Dieu, l'humilité nous conduit à l'amour. Il permet de conjuguer tout ensemble l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi-même. L'Évangile nous la présente comme la, la vertu fondamentale.
Voilà. Donc,
voilà. Oui. Donc, je crois que ce qui est important dans cette définition, c'est d'abord que c'est la base sur laquelle toutes les autres vertus vont pouvoir s'appuyer, grandir. Donc, c'est vraiment la vertu fondamentale.
Ouais. Terrain, dit terrain, terreau, hein, la terre, voilà. Humus, ouais. Donc sur lequel on s'enracine, on peut, ouais. Hein, on peut dire.
Et,
hein.
et que les autres vertus vont pouvoir pousser. Voilà, et puis ça rejoint le commandement d'aimer Dieu, son prochain et soi-même. Oui. Voilà, c'est l'humilité qui permet ça.
Oui. Hein?
Donc c'est vraiment à la fois ce qui nous permet de développer toutes les autres vertus et qui nous permet de suivre ce commandement de Jésus.
Alors voilà, donc pour le niveau spirituel, on peut rajouter quelque chose?
Oui, alors il y a l'abbé Dorothée, donc c'est toujours dans Wikipédia.
Là, c'est, on retourne à Wikipédia.
On trouve des bonnes choses. Hein.
Oui, c'est Dorothée de Gaza, hein, c'est ça le.
Voilà.
Oui, qui père de l'Église.
Du 6e, 7e siècle.
Oui.
Voilà, qui dans. Une des introductions à la vie spirituelle donne une philosophie de l'humilité. Il compare les âmes à des arbres fruitiers. Et quand des arbres fruitiers donnent beaucoup de fruits, les branches, sous le poids, s'inclinent vers la terre.
Oui.
Et par contre, les branches qui n'ont pas de fruits se dressent vers le haut.
Eh oui,
c'est... Voilà. Et il y a même des branches auxquelles on attache des pierres pour les obliger, en quelque sorte, à donner du fruit. Alors, donc, je ne sais pas si les maraîchers font toujours ce genre de choses.
En tout cas, sûrement à l'époque, on le faisait.
Mais sûrement qu'à ça, on le faisait. Mais ce qui est évident, c'est que tant qu'il n'y a pas de fruits, les branches restent en l'air et qu'avec le poids des fruits...
Oui, ça ploie vers le sol.
Elle baisse vers le sol.
Oui.
Et donc, il dit qu'il en va de même avec les âmes. Quand elles s'humilient, elles deviennent riches en fruits. Et plus elles le deviennent, plus elles s'humilient. Et donc, c'est pourquoi les saints se rapprochent de Dieu. Enfin, pourquoi les saints... Plus les saints se rapprochent de Dieu, plus ils se voient pécheurs.
Oui.
Ainsi, Abraham, quand il vit Dieu, s'appela terre et poussière. Et Isaïe, en voyant Dieu, trônant dans sa majesté, s'écria, « Je suis réprouvé, un réprouvé, un impur. » Voilà, non pas qu'il était... plus avant ou après, c'est simplement par comparaison, oui. Finalement.
Dans la lumière de Dieu, parce
qu'il... perception, et plus...
Il voit, c'est ça, dans la lumière, on voit les imperfections.
Voilà. Mais par contre, moi, ce qui est intéressant, c'est cette image des arbres. Plus il y a de fruits, plus les branches...
S'inclinent vers le sol, hein, donc l'humilité de mettre de l'arbre.
Oui.
C'est un côté très physique, finalement, parce que le poids des fruits...
Oui.
Et donc, quand on porte du fruit, on s'incline vers la terre. Enfin bon, il y a cette humilité.
Voilà, en tout cas, il n'y a pas l'opposé qui est l'orgueil de vouloir se redresser et d'en montrer aux autres.
Voilà, il y a cette humilité, l'exemple des saints, hein, on le dit, que les saints sont, se voient vraiment, parce qu'ils voient vraiment leur âme telle qu'elle est dans la lumière de Dieu.
Oui. Alors, parfois, même d'une façon exagérée, je suis en train de penser, il y avait eu un film sur un saint russe, il y a quelques années, qui... qui pensait avoir tué, enfin fait tuer, puisque on lui a laissé le choix. Enfin, c'est un film, c'était une histoire romancée. Hein.
Oui, bien sûr, oui.
Comment ça s'appelait ? J'ai oublié le nom, mais il avait le choix entre mourir lui ou que ce soit son compagnon qui meurt, et il avait choisi en quelque sorte d'avoir la vie sauve. Et puis, il est devenu, après, il est rentré dans un monastère pour faire pénitence, il est devenu un grand saint, tout le monde venait le voir, mais...
C'est un petit peu l'histoire de Saint-Silouane, enfin, romancé, mais voilà. Saint-Silouane qui... Oui.
Sans montrer que c'était lui qui faisait des miracles, puisqu'il guérissait des gens et autres. Voilà, et tout à la fin, juste avant, 3 jours avant de mourir, en fait, il y a la personne... qu'il croyait qu'elle était morte, qui vient pour lui amener sa fille, donc il guérit sa fille et il découvre que c'est cet ami. Voilà, et donc pendant toute sa vie, il a fait pénitence, il s'est rapproché de Dieu, mais finalement, il n'était pas coupable.
Ah oui, c'était, oui, c'est. Oui, donc, c'est romancé, bien sûr, là, mais en tout cas. Ça indique quand même quelque chose de ce qu'un saint peut...
Voilà, de reconnaître, en tout cas, de reconnaître... Alors, il était en intention.
Bien sûr.
Donc, de reconnaître toute cette humilité, et puis la façon dont il se perçoit, et là, c'était beaucoup moins, finalement, il se percevait beaucoup... Pour les autres, c'était un saint, et pour lui, il se voyait comme un pécheur. Mmh. Donc, ça montrait vraiment ce décalage.
Oui, c'est ça, dans le regard des hommes et dans le regard de Dieu, et soit par rapport à Dieu, oui. Donc, mais ça donne quand même une image du saint. Il se voit, lui, tout à fait autrement.
Voilà, comme un pécheur. Oui. Ah.
Alors, peut-être, on peut voir au niveau psychologique en quoi consiste l'humilité.
Alors, tout d'abord, mais ça rejoint cette définition-là, c'est une juste perception de soi. C'est-à-dire une image de soi qui n'est ni surévalorisée, ni dévalorisée.
Oui.
Hein, c'est vraiment dans la juste personne de soi. Et du coup, ça fait que la personne humble reconnaît ses limites et les limites des autres, ce qui lui permet d'être beaucoup plus compréhensible avec les autres. À la fois, elle connaît ses limites de l'humanité.
Donc, elle sait que les autres, pareil.
Mais pour celles des autres, de la même façon. Et en même temps, elle reconnaît ses capacités, ses possibilités dans la vie. C'est-à-dire... autant dans la dévalorisation, on ne va voir que ses limites et les dévaloriser et se considérer nul ou je ne sais pas trop quoi.
Oui.
Autant là, dans l'humilité, la personne reconnaît ses limites, mais reconnaît aussi ses capacités.
Oui.
Donc il y a vraiment les deux aspects.
C'est un équilibre, une justesse. Hein.
Oui. Ce qui fait que être humble, ce n'est pas se percevoir comme un pauvre type, comme quelqu'un de nul, comme on peut parfois l'entendre dire.
Ce serait
une fausse humilité, ce qui serait soit de la dévalorisation, soit de la vanité.
Ah oui.
Hein, ça arrive parfois de... Pour la majorité des gens, c'est de la dévalorisation, mais parfois, ça peut être de la vanité de se présenter comme quelqu'un qui serait très humble, mais tout en n'y croyant pas, quoi.
Donc, on reconnaît donc une justesse, là, dans l'humilité.
Voilà. Il y a un juste amour de soi qui n'est ni défaillant, ni excessif, mais vraiment juste.
Voilà, justesse, donc ajustée aussi à Dieu, on peut dire.
Ouais.
01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du Pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
La vidéo vous donne rendez-vous sur notre site internet www.radionotredame.com. Vous aimez écouter et réécouter vos émissions? Découvrez-les désormais en images. Du lundi au vendredi, connectez-vous dès 7h30 pour suivre nos matinales, Le Grand Témoin et La Voix est Libre depuis notre studio. Le samedi dès 10h, retrouvez Faustine Fayette en live avec toute l'équipe de mission. La vidéo en direct, c'est du lundi au vendredi de 7h30 à 10h, le samedi de 10h à 11h, sur le www.radionotredame.com.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, avec Pascal Parinet, nous parlons de humilité et orgueil en psychothérapie. Et donc, nous voyons que les termes n'existent pas en eux-mêmes, mais qu'ils correspondent à quelque chose. Hein. Voilà, sur le plan spirituel et sur le plan psychologique, il y a quelque chose qui...
C'est dans le langage courant.
Oui, oui.
Donc ça rejoint la psychologie du langage courant.
Oui,
quoi,
oui.
Mais ce n'est pas des mots que les psychothérapeutes ou les psychanalystes utilisent, en tout cas, surtout pas l'orgueil. L'humilité, on peut reconnaître, en parler. Mm. L'orgueil, non, parce que il y a un côté moralisant ou jugement. Et en thérapie, il n'y a pas de jugement.
Mais alors, est-ce qu'il y a ce jugement, puisqu'on le reconnaît dans les spirituels, est-ce qu'il y aurait un jugement, là? Comment alors, pour les saints, par exemple, ou est-ce que, par exemple, c'est parce que on peut être sain aussi, puis ne pas être forcément très équilibré au point de vue psychologique aussi.
Oui,
mais la grâce de Dieu passe à travers les failles. Donc,
mais ça, c'est la petite Thérèse, par exemple, qui a des fragilités psychologiques.
Oui.
Et ça ne l'a pas empêché d'être sain, de faire tout un chemin spirituel, finalement, au-delà ou en parallèle de ses fragilités.
Oui, mais en reconnaissant ses fragilités,
voilà.
Bien sûr.
Et en les reconnaissant. Mm. Je crois que c'est plus une question de morale. Mm. Dans la foi, il y a une morale chrétienne, et même dans toutes les religions.
Oui, bien sûr.
Il y a une morale. Et ça, c'est normal. Le psychothérapeute, il n'est pas là pour faire la morale.
Non, il essaie de dénouer.
Voilà.
Il est plus dans une neutralité quelque part.
Voilà, en tout cas, dans une neutralité morale.
Oui.
Il aide la personne à comprendre ce qui se passe, comment elle vit les choses, à quoi ça l'amène, quelles sont les conséquences de sa vie. Et finalement, c'est la personne elle-même qui va pouvoir découvrir que si c'est bien ou si c'est mal.
Voilà,
le psychothérapeute, il n'est pas là pour lui dire c'est mal ou
non. Hein. Il l'écoute, il essaie voilà. de lui donner une prise de conscience. Quoi, de...
Voilà,
de
l'aider à prendre conscience de ses comportements, de ce qui l'anime parfois d'une façon inconsciente et des conséquences que ça a dans la vie. Et puis la personne va réaliser oui. si c'est bénéfique ou si c'est pas bénéfique.
Donc, c'est là où il y aura une libération quelque voilà. part pour elle.
Alors, j'allais dire, sauf quelques cas exceptionnels, et peut-être on dérive de plus en plus, ou on risque de dériver de plus en plus vers ça, parce que avant, on était plutôt, à l'époque de Freud, par exemple, plutôt dans une société où il y avait peut-être un excès de morale, ou en tout cas la morale était assez lourde sur les gens.
Oui, dans la culture et la société, oui. oui.
Et aujourd'hui, on est plutôt dans une société où il en manquerait.
Oui. Il y a le balancier souvent. Hein.
Voilà. Et du coup, en tout cas, parfois, on est obligé de rappeler une loi, en quelque mmh. sorte, de dire, attention, ça c'est interdit par la loi, ou ça c'est... Voilà.
Oui, mais vous, en tant que psy, vous avez
ça peut arriver, c'est assez exceptionnel, mais ça peut arriver de dire à une personne, vous savez que c'est interdit par la loi, ce genre de comportement.
Oui, parce que la personne, il y a tellement de laxisme qu'elle n'a plus de repères.
Elle n'a plus de repères, parfois elle n'a pas vraiment conscience aussi. Mmh. Oui. Et du coup, finalement... Peut-être que de plus en plus, les psychothérapeutes seront amenés, alors pas à faire la morale, mais à rappeler la loi, à rappeler les limites, en tout cas,
oui.
Aux personnes.
Oui, puisque on vit dans une société où il n'y a plus de repères de limites.
Voilà.
Oui. Alors, est-ce que vous avez donc dans vos dans ce que vous proposez quelque chose se rapprochant de ce thème?
Non, ça c'est vraiment un travail qu'on fait
au fur et à mesure, comme ça se présente.
En fonction des personnes. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs pour qui la question se posera pas. Mmh. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait au long cours de la psychothérapie ou dans un stage.
Oui. Alors on peut profiter pour dire que la semaine prochaine, le 19 décembre, pour les personnes qui sont à Paris ou autour, qui peuvent se rendre à l'espace Bernanos, vous donnez une conférence comme une fois par mois. Hein.
Voilà, à 18h30, c'est jeudi prochain. Donc,
jeudi prochain, oui. 18h30, donc 4 rue du Havre à l'espace Bernanos.
Voilà, et le thème c'est comment faire face à la culpabilité et à la honte.
Voilà, ça sera le thème. Donc là, on disait à quoi consiste l'humilité au point de vue psychologique. Hein, vous nous disiez que c'est pas se percevoir comme un pauvre type, hein, mais comme on peut l'entendre, qui serait peut-être une fausse humilité.
Ou une
dévalorisation. Hein, c'est ça, oui. Donc dans l'humilité, il y a un juste amour de soi qui n'est ni défaillant ni excessif.
Voilà, c'est ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir un idéal, mais en tout cas la personne simple a conscience de son idéal. Ensuite, elle a également conscience que c'est une direction, qu'elle n'est pas...
Elle n'est pas arrivée
à cet idéal, et même qu'elle n'est pas obligée d'y arriver.
Hein. C'est une direction.
Voilà, c'est vraiment une direction, mais qu'elle n'a pas l'obligation d'y être absolument, et encore moins d'y être absolument à cet instant-là. voilà. Et dans l'humilité, il s'agit de reconnaître à la fois ce que l'on est et ce que l'on fait, mais surtout sans chercher à en tirer une reconnaissance ou de l'amour des autres. Voilà, je crois l'orgueil, l'objectif, c'est la reconnaissance et l'amour des autres. Dans l'humilité, on peut reconnaître ce qu'on est, mais derrière, il n'y a pas ce désir de reconnaissance, ce désir d'être aimé, par les autres.
Ce qui serait une compensation, enfin...
qui serait une compensation à un manque affectif ou en tout cas à une faille narcissique. Voilà, où il y a la personne va chercher l'amour des autres pour pouvoir s'aimer elle-même, oui. Finalement. C'est dans le regard de l'autre qu'elle va trouver sa propre valeur, alors que dans l'humilité, elle connaît sa valeur.
Ses limites et son, ce
et,
qu'elle
et ses limites.
Donc, et vous parliez de la fierté, donc ça n'empêche pas la fierté. L'humilité.
L'humilité non, n'empêche pas la fierté, parce que la vraie fierté, hein, qui n'est pas dans l'orgueil, reconnaît ce qu'on fait à sa juste valeur, mais sans en attendre l'éloge. Voilà, je crois que la différence, c'est l'orgueil attend des éloges, alors que la fierté n'attend pas d'éloge. Et puis, on pourra rajouter que l'humilité, ça rejoint la notion d'action juste, c'est-à-dire d'une action qui correspond à une situation, voilà, oui. Qui est bien en correspondance, qui correspond bien à la situation, et qui est gratuite dans le sens où la personne n'attend rien en retour. Voilà, c'est...
Oui, c'est ça, une action juste... Au bon moment, comme, voilà, c'est sans attendre.
Je suis en train de penser au bon samaritain en disant ça.
Eh oui.
Voilà, il fait une action juste, il donne secours, oui. Mais il n'attend pas d'être félicité ou je ne sais pas quoi en retour.
Bien sûr. Il fait ce qu'il pense, justement, que sa conscience lui dit de le faire de façon juste et gratuite.
Voilà.
Il donne même de lui-même et il dit à l'aubergiste, ce qu'il y aura en plus, je te le donnerai à mon retour.
Voilà.
Donc on perçoit bien là ce que peut être l'humilité. Hein. Merci Pascal Parinet. Donc je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00. Humilité et orgueil en psychothérapie. Hein. On a en ligne Marie-Flore tout de suite. Bonsoir Marie-Flore.
Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Et bonsoir Pascal Parinet, car j'ai eu l'occasion d'entendre quelques fois et là ce soir j'ai pris le train en route. Hein.
Bonsoir.
D'accord, bonsoir. Alors Marie-Flore, oui.
Le sujet m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que l'humilité, humble, tout, être plus simple, la simplicité c'est ce qu'il y a de plus beau, être humble, c'est une vertu que beaucoup de gens veulent ignorer ou n'y pensent pas et sont pris par des tas de choses de la société, ils oublient tout quoi. Et puis je pense à moi-même, est-ce que ça peut correspondre avec être soi-même?
Oui, d'une certaine façon, l'humilité, c'est être soi-même, tout en acceptant ses limites, ses fragilités aussi. En tout cas, fragilité ou vulnérabilité, parce que quand on est humain, on est à la fois fort et vulnérable. Donc c'est d'accepter ce que l'on est, donc oui, c'est être soi-même.
Oh, d'accord, parce que c'est vrai que moi j'ai une chose, j'ai toujours peur, mais j'essaie de faire très attention aux autres. Moi je fonctionne avec comme ça, quoi. J'ai pas peur de dire les choses quand ça ne va pas ou quand ça va bien, je dis avec des mots simples. Et puis je préfère être moi-même.
Ouais.
J'ai des questions si j'ai besoin d'en poser.
Ouais.
Ce soir, on m'a demandé pour certaines raisons pourquoi ça allait pas, dans mon activité et tout. Pourquoi j'ai répondu simplement et avec franchise, quoi. J'ai pas eu peur d'affronter la question, quoi.
Ouais.
Je réponds simplement et puis parce que c'était pas possible autrement. Et puis j'ai dit je pouvais pas. C'était comme ça, quoi. Mais moi je peux pas quand ça ne va pas, moi je dis sincèrement quoi, je peux pas être autrement.
Oui, vous voyez, il y a plusieurs mots dans ce que vous dites qui décrivent en tout cas des aspects de l'humilité. Vous avez dit simplement, donc il y a la simplicité.
Oui.
Dans la simplicité, ça rejoint vraiment l'humilité, sincèrement aussi.
Oui. Ah, oui, c'est sûr que je trouve que pourquoi ne pas dire la vérité en face? Pourquoi, enfin, bon, ça se dit avec certains mots, bien sûr, mais je veux dire, autant exprimer la vérité, parce que je trouve que c'est avec la vérité qu'on avance.
Oui.
Alors, sincérité et vérité.
Voilà, sincérité, vérité, simplicité.
Oui, voilà. Parce qu'avec ça, c'est avec ces mots-là que l'on construit un être humain.
Oui. Voilà, et puis on pourra rajouter bienveillance ou douceur. Et, oui. Et si on mélange tout ça, on a l'humilité, en quelque sorte.
C'est des ingrédients, voilà, ouais. C'est un composé, on peut dire.
Ouais.
Tout à fait, parce que je trouve que ça permet de... Eh bien, de toute façon, quand on se sent équilibré et tout, mais de quoi peut-on avoir peur?
C'est vrai.
Je trouve qu'on n'a rien à craindre quand on a ce qu'il faut dans l'équilibre, je ne veux pas dire super intellectuel, c'est pas ça que je veux dire, mais quand l'équilibre mental, on se sent bien dans sa peau... Tout ce qui est paraître et tout, comme l'orgueil, ben ça on s'en fout. On s'en moque, je veux dire. Pas tout, si on se préfère avec un vêtement plutôt qu'un autre, si on se préfère par exemple un vêtement en tissu normal, un menton ou avec une fourrure, moi je me vois très mal, je me vois plutôt avec un vêtement simple, quoi. Je trouve que... Moi, je vois, par exemple, quand je suis sportive, quand j'ai mon aquagym, mais moi j'adore aller au sport... avec le sac à dos et puis ma parka toute simple, quoi.
Ouais.
Là, je suis vraiment bien dans ma peau, quoi.
Voilà.
Je ne me vois pas avec un autre vêtement où je suis... Je sais que, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas trop... Je connais des gens qui sont... Enfin, il y en a des plus doués, plus riches que moi, mais il y en a qui sont moins... Qui sont, moi, je regarde les valeurs humaines. Tout ce qui est matériel ne m'intéresse pas.
Oui, mais voyez, en même temps, moi j'ai envie de rajouter, ce qui est important, c'est d'être en accord avec soi.
Tout à fait.
On peut être humble en habit de sport ou en manteau de fourrure. Finalement, c'est la façon dont on le porte qui va faire que c'est humble ou que c'est pas humble.
Oui, tout à fait, parce que... C'est vrai que les goûts, après, on peut aimer ça, c'est pas forcément autrement, mais je veux dire, moi j'aime bien être toute simple, quoi.
Ouais.
Soit une amie m'a dit, mais tu viens avec le vêtement que tu t'es acheté dernièrement et tout, mais j'ai dit, pourquoi non, j'irai avec toi avec un jean percé.
Voilà.
Parce que j'avais pas envie, je vois une fois, ma maman m'a dit, bon, t'as pas le moral, mais écoute, va à la messe, porte ton imper, c'est l'occasion. Mais pourquoi veux-tu que je porte mon imper à la messe que je viens d'acheter? Mais ça m'intéresse pas d'aller à la messe avec un imper que je viens d'acheter, que je lui ai dit. Non, pas du tout, c'est pas ça qui m'intéressait. Je suis allée comme j'avais envie, voilà.
Ouais.
Par exemple, je vois des gens comme je vous disais tout à l'heure, je vois des gens qui n'ont dans notre copropriété là. On a des gens matériellement, moi c'est qui sont pauvres, si on peut dire quand même. N'ont pas de voiture, elle est au chômage de longue date et lui en invalidité. Eh bien ces gens-là, quand je les vois sur la route, moi je suis en voiture, mais je me dis je suis comme eux.
Ouais.
C'est pas parce que j'ai une voiture que je suis mieux qu'eux. Et je respecte, ils passeront sur le passage pour piétons, ils ont des droits, ils ont des valeurs.
Ouais.
Je me mets à leur niveau.
Voilà. Mais voilà, il y a ça, je crois que tout ce que vous venez de dire est important avec être soi-même, la simplicité, la spontanéité,
oui.
La sincérité, la bienveillance aussi. Enfin,
ah oui, c'est sûr. Hein.
Voilà, écoutez, merci en tout cas de ce témoignage, Marie-Flore. Hein.
Moi, je fais pour le mieux parce que c'est vrai que j'y tiens vraiment à cette humilité et souvent, enfin, moi, je fais pas grand-chose, hein, je n'ai qu'un BEP de secrétariat, mais quelquefois, je rencontre des gens qui ont beaucoup plus que moi et je discute avec eux et ils sont tellement humbles, c'est vrai que c'est très intéressant. Ben, ça fait plaisir qu'il y a des gens humbles qui regardent les autres.
Oui, mais vous savez, moi j'ai envie de dire, l'humilité n'a rien à voir avec la culture ou le milieu socio-professionnel. Je crois que c'est vraiment une vertu humaine. Après, peut-être c'est plus difficile pour quelqu'un qui a une belle situation ou je sais pas quoi, ou d'être humble, parce qu'il est peut-être plus sollicité. Mais ça n'a rien à voir avec, quoi.
Voyez. Non, parce que c'est sûr que, comme vous disiez tout à l'heure, quelquefois, il y a des gens très très modestes, mais qui au fond font l'inverse, quoi.
Ou qui sont humbles. Je crois que ça situe. On est tous égaux ou malheureusement.
C'est pas le côté social.
Voilà. On est tous égaux, que ce soit au niveau de l'orgueil ou de l'humilité, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est vraiment une vertu à développer en soi, quelles que soient nos origines, notre culture.
Parce que est-ce que c'est une éducation à l'origine, à la base?
Alors peut-être l'éducation va intervenir, parce que c'est vrai que si on nous apprend, dans le temps on apprenait la morale, on apprenait la politesse, on apprenait l'humilité, on apprenait tout un tas de vertus.
La patience, la bonté, tout ce qui était, oui.
Alors ça ne veut pas dire pour autant que tous les enfants allaient acquérir toutes les vertus, mais en tout cas ils en avaient entendu parler.
Parce que comme on dit quelquefois, certaines écoles, comme l'armée par exemple côté militaire, ils sont vraiment à l'école de l'humilité. Hein.
Voilà.
Pas net, humble vraiment.
Bon, en tout cas, Marie-Flore, c'est intéressant tout ce que vous nous avez dit sur l'humilité, sur votre façon de la vivre. En tout cas, merci, puis bonne route dans ce sens.
Voilà, et continuez.
Mais j'aimerais savoir s'il y a un livre de M. Pascal.
Ah non, pas encore.
Pas encore, on va le pousser pour qu'il écrive, n'est-ce pas, Marie-Flore?
Ah oui, parce que moi, j'aimerais bien. Là.
Voilà, alors bon, on va essayer de le décider, parce que...
Oui, oui, voilà.
Merci Marie-Flore, merci, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, donc voilà, il faudra vous y mettre, hein, Pascal. Ouais. 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre, humilité et orgueil en psychothérapie. On se retrouve dans quelques instants.
Chaque semaine, dans Et Dieu dans tout ça, James Combépine nous propose de partir à la rencontre d'une personne, qu'elle soit croyante ou incroyante, pour aborder ensemble son rapport à l'homme, à la vie, à la spiritualité et à Dieu. Et Dieu dans tout ça, tous les vendredis à 21h et le samedi à 8h03 sur Radio Notre-Dame.
Cette semaine, James Combépine s'entretient avec Frédéric Lenoir, Olivier Delacroix et le frère Samuel Rouvillois.
Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. Qu'il soit pianiste, violoniste, violoncelliste, flûtiste, clarinettiste, chef d'orchestre, metteur en scène, je les reçois tous les vendredis à 16h. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.
L'agenda musical, tous les vendredis à 16h sur Radio Notre-Dame.
Tous les dimanches, entrez dans les plus grands monastères et joignez-vous à la prière séculaire des moines. Dimanche grégorien avec Pierre Loiret, tous les dimanches à 6h sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ce qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir en compagnie de Pascal Parinet, nous évoquons eh bien ce thème de l'humilité, hein, c'est humilité et orgueil en psychothérapie. Alors nous allons écouter tout de suite Michel qui est en ligne. Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on vous écoute, Michel.
Oui, bon, moi je vis, je dirais, un cas dramatique qui n'était pas si dramatique au départ. C'est qu'en fin de compte, avec les années, mon mari a développé un orgueil insensé. Et il est allé tellement loin qu'en ce moment, je suis pratiquement une pièce dérangeante dans sa vie. Parce que je dérange sans paraître, quoi. L'image qu'il veut véhiculer, qui ne correspond pas à la réalité.
Oui, vous pouvez nous en dire un peu plus, ou il s'est passé quelque chose, c'est venu progressivement
Ben, disons, au départ, il avait peut-être aussi, je dirais pas le contraire, mais bon, tous les hommes ont, beaucoup d'hommes ont un peu un côté macho en eux, on ne s'attarde pas dessus, hein.
Ouais.
Ça, on laisse ça, et puis c'est réglé, hein.
Il n'y a pas eu un événement dans sa vie
Mais à partir de son premier infarctus, ça a commencé.
Ouais.
Donc, c'est la maladie, et ça a encore empiré avec la maladie.
Ouais.
Il y a longtemps cette maladie?
Ben disons, la maladie n'a fait que continuer, quoi, et cette année particulièrement un bon bout de plus, quoi.
Ouais. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, il peut y avoir eu des séquelles cérébrales liées à l'infarctus, du coup que ça ait agi en lui sur son caractère.
Oui.
Voyez, donc ça peut être un aspect purement médical ou autre. Et puis l'autre aspect, c'est que finalement il a été confronté d'une façon extrêmement brutale à sa vulnérabilité, et que peut-être pour lui, c'est un moyen de compenser, de se rassurer, vous voyez. C'est un peu ce qu'on disait au début, c'est voilà, quand on se sent un peu défaillant au niveau image de soi, et quand on manque de mourir finalement, ça peut laisser une impression qu'on est très vulnérable, qu'on peut mourir comme ça du jour au lendemain. Du coup, il peut y avoir un mécanisme de défense et de protection, voilà, de vouloir se montrer fort. Peut-être aussi, ça peut être aussi une façon de se protéger. Ben voilà, il a eu peur en mourant de vous perdre. Et du coup, c'est cette distance ou cet orgueil qui met un peu entre vous. C'est aussi ça peut être aussi une façon de se protéger de la peur qu'il a eue de vous perdre. Alors c'était plus vous qui risquez de le perdre, en même temps, il vous perdait, quoi, quelque part avec cet infarctus.
La peur qui a joué, qui peut jouer.
Voilà.
Oui, mais disons, on devient vraiment projectile, quoi.
C'est-à-dire que du coup, il se protège de cet amour ou de ce lien qu'il peut ressentir pour vous suite au risque de qu'il y ait une séparation par la mort. Vous voyez ?
Oui.
Donc c'est je crois que c'est...
Mais c'est inconscient.
C'est inconscient. Hein. Mmh. Mais quand ça arrive comme ça, après une maladie grave ou un accident cardiaque, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment un mécanisme de protection à la fois vis-à-vis de l'image de lui-même qu'il a perçue comme défaillante, et puis à la fois peut-être de se protéger de la souffrance que peut occasionner l'imaginaire d'être séparé de vous et en mourant, vous voyez.
Oui.
Et donc du coup, il vous met à distance, comme ça, il risque pas de ressentir la peine d'avoir failli être séparé de vous en mourant.
Ah d'accord, ouais, je le vois, je le voyais pas,
ouais.
C'est une façon un peu détournée de dire un amour en ayant peur de le perdre.
Voilà, c'est de se protéger de cette peur de la perte. En mettant une distance, finalement, il ressent moins l'amour, mais il ressent moins aussi le fait qu'il a failli être séparé de vous. Vous voyez ? Donc il y a vraiment ces deux aspects, à la fois de l'image de lui qui a été touchée par cet accident, et puis l'aspect de se protéger de la perte en même temps.
Oui, mais bon, c'est difficile à vivre.
Ah ça sûrement, ça ne doit pas être facile à vivre.
Mais
l'épreuve, oui.
Je crois peut-être faut l'entourer ou lui dire que s'il se referme, de voir quelqu'un pour se faire aider, en sachant que la thérapie dans toutes les maladies cardiovasculaires, c'est vraiment quelque chose qui aide aussi au bon rétablissement, à la prévention. Donc vous pouvez toujours lui suggérer.
Oui, mais enfin, c'est les autres qui sont malades, c'est pas lui.
Oui.
Voilà, il est un peu dans le déni de ce qui s'est passé.
Oui, complètement.
Ouais.
Complètement.
Oui, donc c'est pas évident.
Non, parce qu'on ne sait même pas sur quel terrain être. Parce que quand on vit le déni, l'autre ne sait plus à quel moment on est authentique après.
Oui. Voilà, mais en gros, c'est de lui suggérer, de lui dire, peut-être ça serait bien de te faire aider. Peut-être si c'est trop difficile pour vous, de vous faire aider vous pour essayer de voir comment
gérer la situation.
Situation. Et puis peut-être de mieux comprendre quels sont les enjeux pour lui, pour votre couple, qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
De rien. Merci. Bonne soirée.
Et courage, Michel.
Bonsoir.
Alors, Pascal Paganet, on va voir quelle place, alors, à l'orgueil en psychothérapie, même si on n'utilise pas le concept, malgré tout, comme vous nous disiez.
Alors on va parler de ce que les autres appellent une attitude orgueilleuse qu'on peut parfois y trouver, mais pour nous c'est plus une problématique narcissique qui peut relever de deux choses.
Oui.
D'abord de ce qu'on appelle l'idéal du moi.
Oui.
Alors l'idéal du moi, c'est une instance psychique de notre personnalité qui provient à la fois du narcissisme infantile. Le narcissisme infantile, c'est quand l'enfant est encore en symbiose et qui se croit tout puissant finalement, parce qu'il suffit qu'il ait besoin de quelque chose, ça lui arrive, mais il croit que c'est
lui.
Il croit que c'est lui qui le crée, donc il vit dans un état de toute puissance, c'est cette période-là du bébé. Donc cette instance, l'idéal du moi, ça vient à la fois de cette période, mais aussi des identifications aux figures parentales et puis après à toutes les autres figures adultes. Et donc il y a une période où l'enfant se vit dans la toute-puissance, dans une illusion de grandeur, et il va y renoncer avec l'Œdipe et avec l'intériorisation des interdits, de la loi.
Ça devrait se faire normalement, ça.
Voilà, ça se fait normalement. Oui. Et en ce faisant, il se produit alors en lui l'intériorisation, donc il va intégrer dans sa personnalité à la fois des aspects de conscience morale, de censure morale, Et puis des aspects d'idéal. Donc la conscience morale, c'est ce qu'on appelle le surmoi en analyse, et puis l'idéal, on appelle ça l'idéal du moi. Et en fait, bah, du surmoi provient la culpabilité, et de l'idéal du moi va provenir tous les sentiments de ne pas être à la hauteur, les sentiments d'infériorité, du coup, ces sentiments d'infériorité, elles vont être compensées par l'orgueil.
Oui.
Voilà. Alors ça, c'est la première instance. Il y a une autre formation psychique qu'on appelle le moi idéal.
Alors, le moi idéal, de quoi s'agit-il ?
Alors, qui relève d'un idéal de toute puissance, alors toujours lié à cette phase
narcissique infantile.
Mmh. Et ça, celui-là, on va le retrouver dans l'admiration pour des grands personnages, des héros, à qui la personne s'identifie. Voilà, il y a des personnes qui s'identifient à, je sais pas qui, à Napoléon.
À
des présidents de la République, ça arrive. Ça arrive assez souvent, enfin, à des grands personnages ou des héros
mondialement connus.
Alors, voilà, on retrouve ça.
L'adolescent, par exemple.
Alors, ça arrive beaucoup à l'adolescence et ça participe à, quelque part, à la croissance l'adolescence, mais. Il y a un moment, il faut qu'il arrête de s'identifier.
Oui,
parce que c'est plus qu'une projection, hein, ouais. C'est vraiment une identification.
Autrement, ça devient une pathologie.
Voilà. Mmh. Et s'il réalise pas ça, s'il réalise pas que finalement il est lui-même et qu'il n'est pas cette personne-là, ça devient pathologique. Mmh. Et du coup, ben, le moi idéal correspond à l'individu qui se perçoit comme idéalisé ou comme un surhomme, ou en tout cas comme un grand personnage. Et du coup, voilà. Et on retrouve là les deux versants dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'orgueil. Le versant défensif face au sentiment d'infériorité ou de ne pas être à la hauteur. Et le versant d'idéalisation de soi, donc d'un amour excessif de soi, parce que identifié à quelqu'un de surhomme ou un héros. Voilà. Alors, sur le plan pratique, un peu plus pratique, en fait, on aide la personne à prendre conscience de ses instances.
Donc en psychothérapie, oui.
Voilà. Et surtout des conflits internes que ça va engendrer et de l'impact que ça peut avoir dans sa vie. Donc on s'occupe pas de l'orgueil, mais on va regarder à quoi elle s'identifie, quel est son idéal et quel impact ça a dans sa vie. Et par exemple, des conflits avec les idéaux peuvent être source d'agressivité envers les autres. Hein, y a un idéal de perfection et que la personne fait des erreurs ou autres et que les autres lui font remarquer, forcément, elle va ressentir de l'agressivité envers les autres ou elle n'acceptera pas la critique, etc. Pour d'autres, ça va être l'illusion de pouvoir s'en sortir tout seul, par exemple, dans une situation difficile. Voilà, le refus des autres, j'ai besoin de personne, je vais m'en sortir tout seul. Alors, on retrouve ça un peu aussi dans les arrêts prématurés de thérapie, quand la personne commence à prendre conscience et puis, elle arrive à des prises de conscience qui sont parfois un peu dérangeantes et elle arrête la thérapie sans prévenir.
Alors que ce serait le moment peut-être d'aller où il se passe quelque chose.
Voilà, en tout cas, elle est en train de commencer à prendre conscience, mais peut-être dans certains cas, c'est un peu difficile et du coup, préfère éviter et arrêter. Mmh. On retrouve ça aussi avec les personnes qui font une ou deux séances à droite, une ou deux séances à gauche et puis qui disent « Ah, mais j'ai fait... j'ai vu des psys oui. Et ça fait rien.
Oui, parce que voilà, on commence, mais
voilà, mais combien de fois? Bon, je les ai vus, il y en a un, je l'ai vu une fois, l'autre deux fois. Donc,
il n'y a pas la continuité, hein, qu'il faut voilà. Un chemin, oui.
Ce qui est à la fois une façon de dire qu'on fait quelque chose, donc de montrer un effort, et puis en même temps de ne pas le faire. Voilà, on pourrait dire de la même façon quand une personne ne peut pas dire qu'elle fait une psychothérapie à ses proches ou à vraiment des amis intimes. Il ne s'agit pas de crier sur les toits non. à tout le monde. Mais il y a des personnes qui ne peuvent même pas en parler à des proches et que absolument personne ne sait, en dehors du thérapeute, qu'elles font une thérapie. Voilà, c'est parce qu'il y a un idéal, en tout cas. Elle ne s'autorise pas à montrer une image d'elle-même qui ne soit pas parfaite ou qui présenterait en quelque sorte une vulnérabilité. Voilà, ce qui fait que bah, toutes ces instances, que ce soit l'idéal du moi, le moi idéal, ont un impact permanent sur la vie de chacun. Mmh. D'autant plus qu'elles sont inconscientes, ou en tout cas la personne n'en voit que la partie émergée de l'iceberg, mais il y a toute oui. la partie immergée. Le travail de thérapie, ça vise à prendre conscience de tout ça, à en résoudre les conflits qui en découlent et qui sont source de souffrance et de difficultés comme la culpabilité et la mauvaise image de soi.
Grand merci Pascal Parinet. Donc nous allons nous retrouver dans quelques instants. On écoute là Art Mungo qui chante Murmure de coquillage.
Radio Notre-Dame.
J'aimerais volontiers les nuages, comme les aimer cet autre étranger. Mais ils ne sont pour moi qu'un outrage à nos rêves communs de liberté. Passez donc les nuages, il n'y a rien à voir. Je ne suis qu'un coquillage qui murmure des histoires. J'aimerais volontiers les nuages, s'ils me tendaient la main quelquefois, s'ils m'invitaient un jour au voyage, ou s'ils ne passaient là que pour moi.
Murmure de coquillage, voilà, Art Mungo. Donc ce soir avec Pascal Parinet, humilité et orgueil en psychothérapie. Nous écoutons Nelly tout de suite qui est en ligne. Bonsoir Nelly.
Oui, bonsoir Chantal et bonsoir le monsieur, j'arrive pas à retenir
Pascal, le nom. Pascal Parinet.
Oui, Pascal. Bonsoir. Alors, bonsoir aussi toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, dans cette période de l'Avent, à qui je propose d'aller de l'Avent.
Ben oui,
c'est la blague du jour. Voilà, c'est difficile de après le développer, de justement, redites-moi le nom, Chantal, j'entends pas bien.
De Pascal, Pascal Parinet.
Ah, voilà, merci. C'est très difficile de passer derrière le développé de Pascal en ce qui concerne l'humilité. Je disais à Françoise tout à l'heure qui m'a vraiment bien réceptionné que qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le mot humilité dont on va prendre le beau manteau qui va nous convenir ou pas nous convenir, ou alors simplement trouver le manteau de Jésus, on va dire, revêtir le beau manteau de Jésus qui a servi son Père en nous servant et essayer de suivre son chemin. Est-ce que ça serait pas mieux, je sais pas trop bien comment le dire, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est beaucoup mieux, ce qui est beaucoup mieux, c'est pas beaucoup mieux, le comparativisme, non. Mais si on essaie de suivre le chemin, qu'on soit conscient à chaque instant de ce qu'on peut dire, faire ou penser qui pourrait nuire à quelqu'un, d'en prendre conscience et même demander pardon quand on n'a pas su gérer, et demander pardon pour la personne en prenant conscience qu'on a peut-être fait du tort. Bon, si ça n'a pas été du tort, c'est très bien, mais une extrême sensibilité à toutes les personnes qui nous entourent et souhaiter le bien pour tous les êtres qui nous entourent, est-ce que c'est pas important que le mot humilité, c'est-à-dire faire corps avec toutes les personnes qui nous entourent, parce que ces personnes-là, elles ont Jésus en elles ont Dieu en elles. Ce que je concevrais, ça serait en servir Jésus à travers tous les êtres qui nous entourent, en les aimant comme Jésus nous aime, et en les voyant comme Dieu nous aime, et en prenant soin comme il l'a fait.
On a compris ce que vous vouliez dire.
Jésus ou Dieu, on va dire la Sainte Trinité.
Voilà. On a compris ce que vous vouliez dire, Nelly.
Si vous voulez, le baptême de l'Esprit Saint, qu'on aille tous ensemble dans la même direction.
Si vous voulez,
en prenant soin les uns et les autres.
On a compris ce que vous vouliez dire.
On a compris. Simplement, ce que vous dites, en gros, pour résumer. Il vaut mieux vivre l'humilité que de dire que c'est de l'humilité.
J'en sais rien, alors là, il n'y a que vous qui pouvez le dire, parce que je n'arrive pas très bien à savoir ce que c'est que l'humilité.
Ce chemin où dans l'humilité, il y a deux aspects. Vous avez parlé de s'intéresser aux autres, d'être proche des autres, de servir, de suivre Jésus. Mais il y a aussi un aspect d'avoir une vision juste de soi. Vous voyez ? Il y a l'aspect, j'ai une juste perception de moi, et puis ce que j'ai appelé l'action juste aussi, c'est j'agis d'une façon juste et adaptée aux circonstances, sans attendre en retour d'éloges, d'amour et tout ça.
J'adhère à ça, mais se voir de l'extérieur, à moins d'aller, de creuser profondément dans son intérieur et retourner à la source en creusant, creuser comme on creuse un puits, et aller à la connaissance de soi, c'est un travail de chaque instant.
Et de toute une vie.
Mais quand je dis de chaque instant, c'est-à-dire nous ne pouvons à notre niveau que vivre le présent définitif ou l'instant éternel. Voilà.
Donc, en tout cas, certaines personnes ont plus de difficultés et donc ont besoin justement.
Et puis en même temps, on a besoin de mots. parce que nous sommes des êtres de relation. Et on est aussi, on pourrait dire, des êtres de la parole, du langage.
C'est difficile aussi, voilà. Sans vouloir vous couper, Pascal et Chantal, c'est difficile de trouver le mot juste. On est limité pour trouver un mot juste.
Voilà, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on a besoin de mots pour décrire les choses. Et voyez, on parle d'humilité, mais voyez tous les mots que vous avez eu besoin pour exprimer votre vision de l'humilité. Et on a besoin de mots qui résument tout ça, qui disent voilà, quand on dit humilité, ben il y a, je sais pas, 80% des gens qui comprennent qu'est-ce que c'est. Quand on dit orgueil, il y a 80%. Et on a besoin de mots comme ça qui font qu'on puisse communiquer ensemble et partager les choses ensemble.
Merci de votre voilà, de ce partage, Nelly.
Vous êtes très gentil, Chantal. J'ai toujours plaisir à faire partie de votre émission. Et je crois que vous le savez très bien.
Merci en tout cas.
Je suis très heureuse de faire partie de votre émission. On grandit avec vous. Et on vous
remercie. Un grand merci, Nelly. Donc on va poursuivre un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. En tout cas, merci de votre partage. Au revoir. On n'a plus beaucoup de temps, Pascal. Peut-être on va résumer quelle place alors a l'humilité dans la psychothérapie.
Voilà. Déjà, on pourrait dire qu'entreprendre un travail sur soi, de connaissance de soi, c'est un signe d'humilité. Alors bien sûr, la plupart du temps, les gens ils viennent à cause d'un mal-être ou d'une souffrance. Et qui les amène à une démarche thérapeutique. Mais il y a aussi le fait de demander, d'accepter de demander de l'aide et d'accepter de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'humilité. Et puis, il faut aussi un minimum d'humilité pour reconnaître ses difficultés et décrocher son téléphone pour prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est déjà avant même.
Oui, c'est ça.
Avant même la thérapie.
Oui, oui. Déjà la démarche, hein, c'est une preuve d'humilité que de faire toutes ces démarches avant d'arriver au thérapeute.
Voilà. Puis après, il faut reconnaître que il faut beaucoup d'humilité pour parler de ses difficultés à quelqu'un, de son vécu, de ses souffrances, de ses problèmes à quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Oui.
En plus, alors même si c'est un professionnel, mais voilà. Et là, faut aussi une bonne dose d'humilité. Ce qui fait que toute démarche thérapeutique, finalement, est une démarche d'humilité, puisqu'il s'agit de faire la vérité en soi. Et lors d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse, justement, la personne est invitée à être en vérité avec elle-même, et ça, quelle que soit la nature de ses difficultés, qui peuvent être très variées.
La principale étape concernant l'humilité, par exemple, on n'a plus beaucoup de temps, qu'est-ce que ça peut...
Alors,
il faut d'abord accepter.
Faut d'abord accepter de faire la démarche. Mmh. Après, il y a toute l'humilité d'en parler. Et puis aussi, il va y avoir très souvent de mesurer la part personnelle dans ce qui fait son histoire plutôt que d'accuser les autres. Mmh. On a tous un peu tendance à accuser les autres. Voilà. Là, on va rentrer dans l'humilité d'accepter
sa part personnelle
de faire la vérité sur soi.
Oui.
Et même quand une personne a vécu des événements difficiles, il n'en reste pas moins vrai qu'elle a pris part à ces événements avec ce qu'elle était, en fonction de son âge, des circonstances. Et puis, il s'agit aussi de prendre conscience de son mode de fonctionnement pour devenir responsable de sa vie. Et du coup, avec toute cette mise en lumière et la vérité qui est faite sur soi-même pendant un travail thérapeutique, il y a une acceptation qui se fait dans l'humilité. Que ce soit l'acceptation de son comportement, l'acceptation de son histoire, de son vécu, tout ça, ça se fait dans l'humilité. Et la principale étape, c'est sans doute celle de l'acceptation de son humanité et de celle des autres, ce qui va souvent déboucher d'ailleurs sur le pardon. Alors le pardon, le pardon à soi-même, le pardon aux autres, mais aussi des démarches de pardon, parce qu'on a pu blesser aussi d'autres personnes.
Oui, c'est ça, dans les deux sens.
Et du coup, quand la personne accepte son humanité, donc avec ses faiblesses et ses fragilités, mais aussi ses qualités, elle va pouvoir... Là, on est vraiment dans le summum de l'humanité et de l'humilité au moment de la démarche.
Voilà, on arrive à la fin. Là, en deux mots peut-être, orgueil et humilité... Alors, peut-être en deux mots.
Voilà, en deux mots, on a vu que ça correspond à des problématiques narcissiques, que l'orgueil comportait deux versants, un versant défensif contre une mauvaise image de soi et un autre versant d'idéalisation de soi. Et que ces deux versants, finalement, ils correspondent à des instances psychiques en grande partie inconscientes. Et que le travail de thérapie ou d'analyse permet à la personne de découvrir la source de ses conflits internes et de les résoudre, ce qui lui permet d'être plus ouverte et plus humble. Et puis aussi de résoudre son mal-être la plupart du temps.
Et ça peut permettre justement... que toutes les dimensions de l'individu puissent s'harmoniser aussi. Donc,
sans doute. Alors, ça, c'est souvent un bénéfice secondaire, c'est-à-dire que, avec la démarche thérapeutique, l'humilité, on a vu qu'il y a une dimension spirituelle importante, souvent, ça va rejaillir aussi dans cette dimension, parce que c'est la même humilité.
Ouais. Un grand merci, Pascal Parinet. Je rappelle que vous serez le 19 décembre à 18h30, espace Bernanos. Comment faire face à la culpabilité et à la honte? Merci à Marie-Françoise au standard, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD demain à 22h. Écoute, dans la nuit, notre invité sera le père Régis-Marie de la Tessonnière, chaplain des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Le thème de la soirée en ce temps de l'Avent, Marie nous donne le sauveur. Voilà, très bonne nuit à tous. À demain. Et puis, si vous... Vous pouvez participer à Semeur d'espérance à l'église de Saint-Gervais comme chaque mois. C'est demain, donc le vendredi, avec Michel et Augustin. Très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.
Amen.